France Culture.
Cette semaine, entendez-vous l'écho, se demande ce que transmettre veut dire. Au-delà du capital et du patrimoine, nous avons vu lundi que pour les grandes familles, c'est le nom qui est considéré comme un véritable actif à faire fructifier et à conserver comme une assurance face à un monde qui se transforme, quitte à ce que cela génère conflits et tensions. C'est ce que montre l'exemple de la famille Rothschild qui fait face à la financiarisation des années 80 et 90. Hier, c'est la mémoire qu'il s'agit de conserver et de faire vivre. Cette mémoire, c'est celle du travail et de la lutte telle qu'elle se construit tout au long du XXe siècle au cœur de l'usine de Sochaux-Montbéliard. L'usine, fondée en 1912 par la famille Peugeot, ancre dans un territoire très spécifique, tout à l'est de la France, des générations d'employés, d'ouvrières et d'ouvriers, dont les grandes grèves de 1968 et 1989 contribuent aujourd'hui encore à fédérer celles et ceux qui sont aujourd'hui à la retraite et vivent au quotidien la transformation de la morphologie du paysage qui a découlé de la désindustrialisation. Et aujourd'hui, c'est à la transmission du savoir que nous consacrons cette émission, et à plus forte raison du savoir économique. Si l'économie s'enseigne, si on en parle dans les médias, y compris à la radio, un objet reste et perdure, c'est bien sûr le livre. C'est donc la forme d'une sorte de bibliothèque idéale composée des références d'invités eux-mêmes, de références que va prendre l'heure qui vient. Et nous le ferons bien sûr sur France Culture, sur les ondes, pour une bonne raison, qui est celle qu'évoque le pionnier de la création radiophonique Paul de Harme en 1930, dans son essai intitulé « Pour un art radiophonique » et qui croyait fermement, et je le cite là, que la radio peut transformer l'esprit d'une génération, ébranler, remplacer et peut-être faire réviser les respects et les goûts reçus, d'autant plus que grâce au caractère confidentiel de la réception radiophonique, tous les inquiets, tous les glorieux, tous les lecteurs du dictionnaire, tous les clients des doctrinaires des journaux quotidiens, touchés dans leur solitude de leur chambre, se transformeront obscurément en initiés. Et c'est donc en initié que nos quatre invités du jour vont sans doute nous transformer pendant l'heure qui vient. Mélanie Plouvier, Guillaume Allègre, Antonin Bergeau et Christian Chavagneux, bonjour et bienvenue à tous les quatre.
Bonjour.
Bonjour.
Alors un premier tour de table pour commencer, puisque nous avons autour de cette table de grands passeurs de savoir économique. Christian Chavagneux, vous êtes journaliste et éditorialiste à Alternative Économique, auteur de nombreux ouvrages. On peut citer les plus belles histoires de l'escroquerie, du collier de la reine à l'affaire Madoff, ou encore une brève histoire des crises financières des tulipes aux subprimes. Qu'est-ce que transmettre veut dire pour vous? Et est-ce la raison pour laquelle vous avez choisi de devenir économiste, à plus forte raison, journaliste et spécialisé en économie?
Transmettre pour un journaliste économique comme nous, ce qu'on fait à Alternative Économique, c'est qu'on essaie de transmettre les arguments qui permettent aux citoyens de faire leur choix. Notre titre, le fondateur Alternative Économique au pluriel, il n'y a jamais une seule politique possible. Donc, quelle politique vous voulez choisir, vous? Quelle politique chacun des économistes ici présents veut choisir? À lui de faire son choix. Nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de transmettre tous les arguments qui permettent aux citoyens, sur des questions qui sont vraiment assez techniques, comme l'économie, de pouvoir faire leur choix.
Et effectivement, ces questions techniques, nous allons le voir grâce à de nombreux ouvrages, mais aussi grâce à la fiction, sont parfois rendues bien plus accessibles. Guillaume Allègre, vous êtes économiste à l'OFCE, l'Observatoire français des conjonctures économiques, le centre de recherche en économie de Sciences Po. Votre ouvrage « Comment verser de l'argent aux pauvres » a paru au PUF en 2024 et a reçu, attention, le prix de l'Association française de sciences économiques dédiée aux essais, ex aequo avec Günther Capel-Blancard que nous recevions récemment. Vous êtes également lauréat du Grand Prix de la protection sociale 2025, décerné par l'École nationale supérieure de sécurité sociale et la Caisse des dépôts, ex aequo avec Robert Lafort. Est-ce que vous souscrivez aussi aux propos de Christian Chavagneux? Quelque part, transmettre, c'est aussi donner le choix aux citoyens en faisant des citoyens, de fait, éclairés.
Voilà, exactement. Mais transmettre, c'est un bon mot, mais on transmet que ce qu'on a. Hein. On peut transmettre des connaissances en écrivant des livres, mais on transmet aussi les inégalités, on transmet aussi des maladies, on transmet des bonnes institutions et on transmet des mauvaises institutions. Donc je pense qu'il faut regarder un petit peu tout le champ de la transmission.
Et essayer potentiellement de juguler les mauvaises transmissions, en tout cas de les compenser. Antonin Bergeau, vous êtes économiste, professeur associé à HEC. Vous avez reçu le prix du meilleur jeune économiste cette année. Lors de la remise de ce prix, je dévoile là les coulisses, mais vous êtes revenu sur votre parcours, vous avez mentionné notamment le rôle qu'avaient joué certains mentors. Alors, qui sont-ils et est-ce important pour vous d'avoir eu ces figures tout au long de votre parcours pour accompagner aussi ce fameux parcours?
Oui, bah absolument. Je pense que le monde de la recherche en économie ou ailleurs, il est assez difficile. On ne sait pas toujours où aller, donc c'est important d'avoir des rôles modèles. D'ailleurs, c'est plus généralement dans l'économie, dans la société, c'est quelque chose d'important. Donc moi, j'ai eu la chance d'avoir d'abord à la Banque de France d'être encadré par Gilles Berset, qui m'a en fait convaincu de faire de la recherche en économie, parce qu'à la base j'étais ingénieur et c'était pas du tout mon domaine. Et puis ensuite mon directeur de thèse Philippe Aguillon, qui pareil m'a montré un peu comment justement produire de la recherche impactante. Enfin, en tout cas, j'essaye de le faire, et donc j'ai eu beaucoup de chance d'être encadré par ces personnes.
Mélanie Plouvier, vous êtes quant à vous maîtresse de conférences en philosophie à l'Université Côte d'Azur. Vous êtes une grande spécialiste de philosophie sociale et politique du 19e siècle. Vous coordonnez le projet de recherche philosophie de l'héritage. Vous avez fait paraître en mars 2025 un ouvrage intitulé « L'injustice en héritage, repenser la transmission du patrimoine ». On le comprend, vous êtes vous-même enseignante. Quelle est votre conception justement de la transmission ?
Alors, effectivement, via la transmission, me semble être un enrichissement du débat, des perspectives contemporaines par les options qui ont pu exister, qui ont pu être pensées hier. Et de ce point de vue, transmettre, c'est nécessairement, c'est pas simplement un acte depuis le présent, c'est aussi un acte depuis le passé, depuis l'histoire des idées. Et de ce point de vue, notre conception de la transmission est aujourd'hui souvent appauvrie par rapport à ce qu'elle pouvait être, en particulier au 19e siècle.
Ce qu'on comprend à travers tout ce que vous nous avez dit, c'est que la transmission, c'est celle d'une certaine mémoire, une mémoire des savoirs, mais aussi celle des événements qui ont tendance à se perdre. Vous le disiez à l'instant, Mélanie Plouvier, au fil des années, notamment dans le flot de l'actualité. Et c'est peu dire que cette année a été chargée en actualité. Antonin Bergeau, quelle actualité vous a particulièrement marqué ? Quel regard portez-vous sur cette année économique ?
Alors moi, l'événement économique qui m'a le plus marqué, c'est les tarifs douaniers, les droits de douane qui ont été mis en place par Donald Trump il me semble que c'était en mars ou fin mars 2025. Non pas parce que c'est un événement forcément particulièrement passionnant, mais je trouve que ce qui est intéressant, c'est que en fait ça a montré quand même que quand on essayait de mettre en place une politique économique qui reposait sur des calculs, on va dire étrange pour être gentil, en tout cas mystérieux, ça marche pas. Enfin, il y a eu des conséquences quand même assez importantes sur le commerce mondial, sur les cours des actions. Ce qui, d'un certain côté, montre quand même que même si en économie on est très loin de tout comprendre et on n'a pas la solution à tout, on peut pas faire n'importe quoi en politique économique, décider d'ignorer complètement les évidences empiriques et les modèles qui ont été construits sans avoir un résultat relativement catastrophique. Je trouve que c'était une expérience finalement du point de vue de la méthodologie économique assez intéressante.
Et d'une certaine rencontre de la théorie et de la pratique, et d'un certain rappel aussi du principe de réalité. Une actualité qui a aussi inspiré, nourri la réflexion d'un historien et économiste, c'est Arnaud Aurin, qui était à ce micro le 19 mars dernier.
Le bureau du représentant américain au commerce, Jamieson Greer, prépare depuis quelques semaines un mémorandum où il s'agirait de taxer extrêmement fortement les navires construits en Chine qui débarqueraient des marchandises aux États-Unis. Et avec une taxe encore plus forte sur les navires qui arboreraient pavillon chinois. Et du coup, qu'est-ce que c'est que cette histoire de la CMA-CGM dans le bureau ovale ? Eh bien, c'est l'idée selon laquelle les États-Unis d'Amérique, et c'est le discours qu'a fait Donald Trump devant le Congrès, voudraient, mais ça va être compliqué et long, redevenir une puissance maritime. Ce qu'ils ne sont plus. C'est-à-dire qu'il faudrait retrouver la possibilité de construire des navires civils, comme ils le faisaient de manière importante jusqu'aux années 1980-1990, mais beaucoup moins aujourd'hui. Ça veut dire avoir des navires qui battent pavillon américain, ça veut dire pouvoir renforcer de nouveau sa marine de guerre. Et ça implique effectivement, très probablement, de mettre en œuvre des alliances nouvelles avec les compagnies maritimes occidentales. Et on le voit également avec le canal de Panama, hein, où les ports rachetés au Hongkongais Hutchinson l'ont été également par une coentreprise entre BlackRock et MSC, un autre très grand du transport maritime. Donc on a l'impression, en fait, mais l'avenir va nous le dire, on a l'impression que l'administration Trump veut tenter d'attirer dans son silo impérial les compagnies de commerce occidentales pour tenter de contrer, ou de mieux contrer en tout cas, son rival systémique chinois.
Guillaume Allègre, Le Monde confisqué, essai sur le capitalisme de la finitude, 16e, 21e siècle, paru aux éditions Flammarion en janvier de cette année, janvier 2025. C'est votre conseil de lecture. Alors, pour quelle raison ?
Alors, pour rebondir sur l'intervention d'Antonin, c'est vrai qu'il est difficile de ne pas mettre l'inauguration de Trump comme l'événement économique de l'année. Et cette inauguration, finalement, elle se fait dans une histoire, et cette histoire, Arnaud Aurin l'a écrite l'année dernière, enfin en tout cas, elle est parue l'année dernière, et c'est l'histoire du retour du capitalisme de la finitude. Alors, pour être un petit peu, avoir une pensée un petit peu différente de celle d'Antonin, je pense que il faut voir la présidence de Trump comme une volonté de réécrire certaines règles. Et donc on passe d'un capitalisme, alors ça c'est la thèse d'Arnaud Aurin, hein, on passe d'un capitalisme libéral ou voire néolibéral, à un capitalisme de la finitude où ce qui est important c'est le jeu à somme nulle, c'est-à-dire d'extraire les ressources, d'accaparer les richesses plutôt que un jeu à somme positive que l'on a dans l'échange. Mais la chose est que évidemment nos règles économiques et la façon dont on doit interpréter les choses en tant qu'économiste, ça va dépendre évidemment du contexte politique dans lequel on se situe. C'est-à-dire que les règles les lois économiques ne sont pas fixes dans ce jeu-là. Et ce que en tant qu'économiste on va devoir conseiller aux décideurs publics dépend de ce que les autres acteurs font. Et ça, il y a un jeu stratégique qui est intéressant et qui est montré dans le livre d'Arnaud Aurin, qui est de dire, c'est difficile de coopérer si les autres veulent pas coopérer. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une stratégie. Il y a quand même un jeu stratégique qui fait qu'on est contraint aussi par la stratégie des autres. Et si le monde est fermé, les règles sont pas les mêmes que si le monde est ouvert. Et donc, on entre dans un monde qui est différent de celui qu'on a connu jusqu'ici. Et le livre montre qu'on a connu ces allers-retours entre capitalisme libéral et capitalisme de la finitude.
Alors justement, Arnaud Aurin insiste d'ailleurs sur cette notion de phase, sur cet enchaînement aussi de différents moments qui explique le moment dans lequel on se trouve actuellement. Je vous propose de l'écouter à nouveau.
Le libéralisme économique, c'est une modalité possible du capitalisme, en fait. L'idée de ce livre, c'est de mettre en lumière une cyclicité. L'idée selon laquelle le capitalisme n'a d'abord pas commencé avec le libéralisme. Le libéralisme économique, il s'est développé dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. Et puis, il va falloir attendre pour que cette idéologie se mettent réellement en place. Alors, il y aura des petites tentatives au XVIIIe siècle, déjà, de libéralisation du commerce des grains, de suppression des corporations, de tentatives de réduction de cet exclusif colonial. Mais il faut vraiment attendre la fin des guerres de la Révolution et de l'Empire, 1815, le début du XIXe siècle, pour que l'idéologie libérale et les pratiques du libéralisme économique se déploient réellement.
Christian Chavagneux, dans cet ouvrage, Arnaud Aurin estime que le capitalisme actuel, celui qu'il qualifie de la finitude, se distingue du capitalisme libéral, car là où le capitalisme libéral promettait entre autres l'accroissement des richesses et une certaine paix entre les nations liée quelque part à l'idée du doux commerce, le capitalisme de la finitude, lui, et là je le cite, est ouvertement prédateur, violent, rentier, et institue un rapport de force armée comme horizon naturel. Est-ce que c'est effectivement une analyse qui trouve toute sa pertinence aujourd'hui, selon vous ?
En tout cas, c'est un livre qui fait réfléchir, Arnaud l'a dit, et on vient de le dire aussi. Il y a une sorte de... On serait dans un capitalisme qu'on a déjà connu deux fois dans l'histoire. Et c'est ça qui est intéressant dans le livre d'Arnaud Aurin. Je ne suis pas sûr de partager toute son analyse quand il nous dit que ce capitalisme un peu mercantiliste, guerrier, on l'a connu 1880, la Deuxième Guerre mondiale. Moi, je suis en train de faire un petit travail historique. L'automobile française, elle explose et elle est mondialisée à la fin du 19e, début 20e. Le cinéma, la France invente le cinéma, la France explose et c'est mondialisé. Louis Vuitton, Cartier explose à la fin du 19e. Donc, on est dans une grande période de libéralisme pour moi, et d'ouverture et de mondialisation. Donc, sur le timing, je ne suis pas tout à fait sûr de partager avec Arnaud, mais en tout cas, ce dont je suis sûr, et j'ai fait une longue interview avec Arnaud Aurin à la sortie de son livre, et on s'est aperçu que le libéralisme économique dans l'histoire, c'est une toute petite période et que ce qui domine, en fait, c'est le capitalisme de la finitude qui est décrit aujourd'hui. aujourd'hui.
Guillaume Allègre-Soutirage.
Oui, alors juste pour répondre un petit peu, ce qu'Arnaud Orin dit, c'est qu'il ne faut pas confondre ces deux types de capitalisme avec démondialisation ou mondialisation. C'est juste que les règles de la mondialisation sont différentes. Soit une mondialisation libérale, soit une mondialisation plus politique où finalement les règles sont fixées plus par les États, les blocs, et pas seulement par eux, par aussi des monopoles. Parce qu'il dit que dans cette autre mondialisation, c'est des compagnies, des entreprises monopolistiques qui souvent fixent les règles.
Arnaud Orin, nous l'entendions à l'instant, remonte le fil d'une histoire très très longue. Mélanie Plouvier, c'est aussi ce que vous faites dans votre ouvrage dont je rappelle le titre, L'injustice en héritage. Pourquoi est-ce important de pouvoir éclairer les enjeux actuels par ce biais justement du recul historique? Pourquoi est-ce la démarche que vous avez adoptée justement?
Alors, effectivement, j'ai adopté la voie de l'histoire des idées sur un temps relativement long depuis la Révolution française, pour deux raisons. Première raison, c'est que dans cette histoire se joue l'origine de nos institutions. La transmission familiale du patrimoine sous sa forme actuelle, le partage égal, date de la Révolution française, et il n'est pas inutile pour comprendre nos institutions que nous avons tendance à naturaliser, tout particulièrement s'agissant d'héritage, de remonter à leur avènement historique qui révèle que elles pourraient être ces institutions autres qu'elles ne sont actuellement. Et donc le détour par l'histoire, la remontée dans l'histoire, permet de révéler, ou en tout cas de donner pleinement à voir, la nature historique de ce que l'on a tendance à naturaliser. Le second élément qui me semble intéressant dans les remontées sur le temps long, c'est que on découvre, en tout cas ça a été pour moi le cas, on découvre des pensées, des représentations, des théories qu'on ne parvient plus immédiatement à comprendre. Et là, d'un seul coup, on se rend compte que ce qui pour nous va de soi, ce qui nous apparaît comme une évidence, en fait, peut être déstabilisé, interrogé, critiqué. Et c'est ce qui m'est arrivé concrètement. La transmission familiale du patrimoine allait pour moi de soi, et puis au contact, à la longue fréquentation des théories du 19e siècle, je me suis rendu compte qu'il y avait d'autres manières de penser la transmission du patrimoine.
Alors on l'a vu, c'est l'actualité venue des États-Unis nourrit donc une réflexion assez intense et une littérature fournie qui n'hésite pas à se tourner vers l'histoire afin de comprendre ce qui est en train de nous arriver et qu'il est parfois assez compliqué, ne nous mentons pas, de suivre. C'était aussi la réflexion que propose la journaliste et romancière Judith Pérignon sur France Inter le 29 mai dernier.
Les États-Unis se construisent dans la violence, que ce soit le massacre des Indiens, l'esclavage, la quête du profit. Les États-Unis, c'est d'abord une aventure individuelle, de prospérité, de faire de l'argent, et c'est la loi du plus fort, c'est la loi du Far West. Et c'est tout ça que traînent les États-Unis. Et quand tout s'effondre, tout à coup, les gens se disent, les gens y croient aux États-Unis jusqu'à ces années 30, tout à coup, ils se disent, mais ça marche pas. Et donc, Roosevelt va inventer la puissance publique. Un arbitre, un régulateur qui dit, attention, on ne peut pas tout permettre. Il faut faire société, donc il faut créer des règles et effectivement redistribuer la richesse. Et c'est la première fois aux États-Unis. Et on voit bien que l'idée du New Deal, de l'État-providence et de Roosevelt a complètement régressé. Alors pas simplement avec Trump, il faut savoir que jusqu'aux années 70, il y avait un consensus là-dessus aux États-Unis. Et puis est arrivé le courant néolibéral, les crises économiques, avec Reagan qui a commencé à démanteler ça, mais aussi sous Clinton. Clinton a démantelé des lois fondamentales prises après l'effondrement économique. Et ces lois, si elles avaient toujours été en vigueur, la crise des subprimes n'aurait pas eu lieu.
Christian Chavagneux, L'autre Amérique, paru chez Grasset en coédition avec France Culture et dont l'autrice Judith Pérignon avait également produit une grande traversée sur France Culture consacrée à Franklin Roosevelt. C'est votre premier conseil lecture. Pour quelle raison ?
Parce que pour moi, Franklin Roosevelt, c'est l'homme politique le plus important du XXe siècle. Et l'autre Amérique, c'est celle de Roosevelt, contrairement à celle de Trump. Alors, si vous connaissez déjà Roosevelt, vous n'apprendrez rien dans ce petit livre. Il n'y a pas de révélation fracassante, il n'y a pas d'enquête absolument formidable. Par contre, si vous ne le connaissez pas, c'est un récit économique, politique, humain, qui vous permet de découvrir qui était Roosevelt. Un récit économique, on revient sur le fait que, bien évidemment, il a sauvé le système bancaire américain, puisqu'il arrive en 1933, en pleine crise. Il a instauré une taxation progressive, il a fait la chasse aux fraudeurs fiscaux les plus riches, il a développé la liberté syndicale, etc., etc. Mais J.T.P. Réunion nous dit attention, rappelons-nous que le Parti démocrate à cette époque, il y a tout le Sud et c'est des suprémacistes blancs, racistes, antisémites, et que quand Roosevelt dit on va mettre la liberté syndicale, et les gars du Sud lui disent ah oui, mais si tu mets la liberté syndicale pour les domestiques, tous les Noirs, ils vont avoir la liberté syndicale. Donc Roosevelt est là, il se dit, est-ce que j'essaie de pousser, je vais contre mes suprémacistes, et ça va peut-être pas passer sur le plan législatif, ou alors j'essaie de le pousser en disant, bah tant pis, les domestiques n'auront pas la liberté syndicale. C'est ce qu'il fait. Le livre montre bien tous les choix politiques qui ont dû être faits. Puis enfin, il y a le récit humain de ce gars qui est un vient d'une famille richissime, qui est un patricien, qui est un grand danseur, et qui tout d'un coup, à 39 ans, attrape une polio qui lui coupe les deux jambes, c'est le cas de dire. Il est complètement paralysé, il va longtemps cacher ce problème, et puis il y a une scène magnifique dans le livre, bon, qui est connue, mais qui est bien racontée, qui est qu'il a invité à un mariage de sa famille. Évidemment, il y a 3-4 marches à descendre pour aller dans le jardin pour parler à tout le monde, il peut pas puisqu'il est en fauteuil roulant, et personne ne vient lui parler. Pourquoi ? Parce qu'il est dans une famille de riches, et que il est rentré dans le chou des riches en leur prenant de l'argent, en les taxant, et Roosevelt a cette phrase magnifique, je suis fier de leur haine. Voilà, c'est un beau récit économique, politique et humain. Et
c'est un récit humain, vous l'avez dit, il y a évidemment la figure centrale de Roosevelt en tant que tel, mais on peut lire peut-être aussi entre les lignes la destinée, en tout cas l'apport d'autres personnages, le ministre des Finances Henry Morgenthau, sa femme Eleanor Roosevelt, qui conduit la lutte pour les réfugiés. D'autres ne sont pas cités dans le livre, mais vous les citez dans l'article que vous avez consacré à cet ouvrage, mais qui participent aussi à la construction de la politique économique de l'époque. C'est le cas de la secrétaire au travail de 1933 à 1945, Frances Perkins. C'est aussi quelque part, Christian Chavagneux, à leur découverte qu'on part dans cet ouvrage, encore une fois, à travers les lignes.
Oui, bien sûr. André Morgenthau, c'est le ministre des Finances, et je découvre que... Alors, je savais qu'il avait écrit des mémoires sur la période Roosevelt. Je m'aperçois qu'il a écrit, il a tenu un journal quotidien du début de sa vie jusqu'à sa mort. Donc, il y a 16 volumes, et donc, il y en a quelques-uns qui sont consacrés à Roosevelt. C'est grâce à Morgenthau qu'on a un petit peu le contact humain aussi, les affres de la décision politique. Est-ce qu'on doit entrer en guerre ou pas? Est-ce qu'on doit aider les réfugiés? Est-ce qu'on doit aider les juifs européens? Donc, Roosevelt sait qu'ils ont été massacrés, mais le ministère des Affaires étrangères est dirigé par des antisémites totaux. Donc, comment Roosevelt doit jongler avec tout ça? La femme de Roosevelt, évidemment, Eleanor Roosevelt, qui joue un rôle extrêmement fort. Roosevelt lui dit, tu fais ce que tu veux pour les réfugiés, moi je te soutiendrai pas. Donc tu fais ce que tu veux de ton côté, mais vraiment des réfugiés, personne à la Maison Blanche et personne à la maison. Donc voilà, il y a tout ce jeu personnel, et puis c'est vrai qu'il manque Frances Perkins, parce que l'État-providence américain dont toute l'Europe a pris pour exemple après la Deuxième Guerre mondiale, c'est quand même elle qui réussit. J'aurais trouvé que ce livre écrit par une femme aurait mérité de mettre en avant cette belle femme qui a été Frances Perkins.
Bon, au moins on en aura parlé aujourd'hui. Exactement. C'est au moins cela te fait. Antonin Bergeon, on comprend, il y a l'importance du temps long, a fortiori lorsqu'on cherche à comprendre l'attitude des États-Unis aujourd'hui, ce qui semble être une forme de nécessité. Or, c'est ce regard aussi que nous offre l'économiste américain Robert J. Gordon dans son ouvrage The Rise and Fall of American Growth, The US Standard of Living Since the Civil War, paru en 2016 au Princeton University Press. Un premier mot peut-être, qui est Robert J. Gordon, qu'on ne connaît pas forcément en France?
Alors, c'est un économiste américain qui est chercheur à l'université de Northwestern à Chicago, et il est maintenant un peu âgé, mais il a été, je crois qu'il enseigne d'ailleurs toujours, mais il est spécialiste de la croissance américaine, et il a développé une théorie qui existait avant dans les années 30, mais qu'il a un peu remis au goût du jour, qui est la théorie de la stagnation séculaire. Ça veut dire, la stagnation séculaire, que, en gros, on a parlé tout à l'heure de monde à somme nulle. Bah, c'est un peu ça, c'est-à-dire que c'est une projection d'un avenir long dans lequel la croissance serait nulle ou très faible, voire parfois même négative. Et donc, on a perdu ce moteur qu'on a eu et que Robert Gordon, dans ce livre, met très clairement en avant aux États-Unis, qui est le moteur de la croissance qui a permis justement de ne plus raisonner à somme nulle. Et aux États-Unis de bénéficier pleinement des technologies de la révolution industrielle. Alors là, on parle essentiellement d'une période qui va de 1870 en gros à 1970, que Robert Gordon décrit dans ce livre en la présentant comme une période unique dans l'histoire.
Oui, par même de révolution.
Parce que une longue période, mais vraiment, il insiste sur le fait que c'est une parenthèse unique, que pendant des siècles, on a eu en fait une croissance faible. En tout cas, il peut y avoir des périodes avec des forts développements, mais sur longue période, pas de tendance. Et en fait, sa théorie, et il amène ses chiffres pour montrer qu'on va revenir probablement vers cette période. Alors, il y a plusieurs arguments pour ça. Il y en a beaucoup, mais peut-être pour en donner quelques-uns rapidement. En gros, il dit, voilà, il y avait beaucoup de vent favorable à l'époque qui permettait d'augmenter facilement la croissance. On avait une révolution industrielle qui est, en fait, d'après Gordon, la seule vraie révolution industrielle, qui est l'arrivée de l'électricité, qui fait passer, en fait, la société et l'économie d'un monde où, en gros, on ne peut pas allumer la lumière après quand il fait nuit, donc on doit s'éclairer à la bougie ou avec des poêles, ça pollue, ça fait des maladies, on peut faire brûler, enfin ça brûle quoi. Et puis d'un coup, on a des ampoules et puis on a de la lumière, ça change la vie. Si on regarde la révolution industrielle suivante qu'on compare en général, troisième révolution industrielle, deuxième révolution industrielle, l'arrivée du numérique, l'arrivée de l'informatique, raconte qu'en fait, c'est beaucoup du loisir, du confort, c'est intéressant, ça a apporté quand même de la qualité de vie, mais rien à voir avec l'arrivée de l'électricité.
Mais c'est pas une question de vie ou de mort,
c'est ça qu'il faut comprendre. Voilà, et d'ailleurs, en général, il demande à ses auditoires, à chaque fois qu'il fait une présentation, est-ce que vous préférez renoncer pendant une semaine à l'eau courante et l'électricité ou à votre smartphone ? Et on voit bien la différence. Et donc, voilà, sa première hypothèse, c'est ça, c'est que c'est des technologies très différentes dans leur impact. Et ensuite, qu'il y avait tout un tas de vents favorables qu'on a perdus, notamment les capacités budgétaires et les capacités d'implication de l'État fédéral aux États-Unis qui, encore jusqu'aux années 80, s'impliquaient quand même énormément dans la vie économique, et notamment dans l'innovation d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on n'a parfois pas en tête. Et puis, le niveau d'éducation qui partait d'assez bas et qui en fait est monté très rapidement, ce qui a donné beaucoup de vecteurs de croissance.
Antonin Bergeot, vous avez parlé de chiffres. Il faut dire aussi que Robert G. Gordon, c'est une méthodologie aussi assez spécifique qui est liée à ce travail du temps très long. Comment fait-il pour travailler sur une période aussi longue ? On a dit 1870-1970.
Alors lui, il travaille, il a fait un long travail de reconstitution de données historiques pour mesurer la croissance américaine sur une période. Alors, aux États-Unis, la comptabilité nationale, c'est la première comptabilité nationale avec le Royaume-Uni. Donc ils ont des chiffres quand même officiels depuis 1929. C'est quand même déjà, on peut voir bien ce qui se passe depuis 1929. Et ensuite, lui, en utilisant des travaux d'historien, il a reconstitué en fait des données sur donc le PIB, ce qui peut s'assimiler au PIB qui n'existait pas en fait depuis le début du 19e siècle, et puis les facteurs de production, le capital, le travail, pour justement bien regarder les moments où on a eu des phases importantes de productivité.
Mélanie Plouvier, nous avons aussi en France des économistes qui travaillent avec des données sur un temps très long. Impossible de ne pas évoquer là le capital au XXIe siècle de Thomas Piketty. C'est une de vos recommandations. Quel rôle a joué ce livre pour vous ?
Alors, ça a été un livre très important dans mes recherches. Ça a vraiment, ce livre a constitué le point de départ de mon intérêt sur l'héritage. Il faut déjà souligner combien c'est un livre surprenant, puisque c'est un best-seller de 970 pages qui se vendait dans les comptoirs des aéroports. Donc, c'est un objet assez surprenant dans le fait même que par son ampleur, hein, et en même temps par sa très très large diffusion. Dans les résultats qui, moi, m'ont le plus marqué, il y a cette distinction entre nos appréciations relatives des inégalités de revenus et des inégalités de patrimoine. Ce que nous montre très bien Thomas Piketty dans cet ouvrage, hein, c'est combien les inégalités de capital pèsent de plus en plus et combien les écarts dans la détention du patrimoine l'emportent sur les écarts, si vous voulez, dans les inégalités de revenus. Je redonne hein, ce chiffre donné par proposé par Piketty. En France, en 2010, les 10% les plus riches de la population française détiennent 62% du patrimoine et les 1% les plus riches détiennent 25% du patrimoine, quand les 50% les plus pauvres détiennent moins de 5%. Voilà, ce livre a contribué très fortement à l'établissement de ce diagnostic aujourd'hui assez largement partagé sur les inégalités de patrimoine. Et l'autre chose que ce livre opère, c'est un second diagnostic concernant le rôle de l'héritage dans cette mécanique de concentration du patrimoine. C'est ce que Thomas Piketty a appelé le retour de l'héritage, qui configure nos sociétés contemporaines comme des sociétés d'héritiers comparables sur
certains points à ce qu'étaient les sociétés d'héritiers du 19e siècle. Et ça a été pour moi le point de départ, puisque je constatais, grâce à Thomas Piketty, combien dans l'ordre économique l'héritage retrouve aujourd'hui un poids comparable à celui qu'il détenait au 19e siècle, alors que dans l'ordre théorique, ce que je constate dans mes lectures, pérégrinations dans le long 19e siècle, c'est que la question de l'héritage était alors omniprésente, alors qu'aujourd'hui, il en est relativement peu question. Alors, si je peux juste ajouter un point, comme vous parliez de la production de chiffres sur le temps long, je crois que c'est là aussi un élément très intéressant de l'ouvrage de Thomas Piketty, puisque les séries qu'il construit sont très longues, de 1790 jusqu'à aux années 2010, et ce, grâce aux statistiques officielles, les chiffres des successions et des donations. Et de ce point de vue, on ne peut que souligner l'importance de ces productions statistiques organisées par l'État, parce qu'elles donnent à voir des réalités économiques, et on ne peut que déplorer que depuis 2010, nous ne disposions plus de ces chiffres pour les successions et donations.
Et par ailleurs, les travaux de Thomas Piketty ont inspiré la génération suivante. On parle de transmission aujourd'hui, c'est le cas plus que jamais, dans un certain esprit clairement assumé de transmission. Et c'est le cas notamment de l'économiste Gabriel Zucman, qui, de passage, entendez-vous l'écho, le 11 juin dernier, expliquait les principes de la taxe qui porte son nom.
Le principe, à partir du moment où il est établi que les très grandes fortunes payent peu d'impôts, en particulier extrêmement peu d'impôts sur le revenu, c'est de créer un impôt plancher, un impôt minimum. Pourquoi est-ce que c'est intéressant, l'impôt minimum ? Tout simplement parce que c'est la façon la plus efficace de lutter contre ce phénomène. L'impôt plancher, il vient s'attaquer à toutes les formes d'optimisation fiscale, quelles qu'elles soient. On n'a pas besoin de spécifier qu'on va s'attaquer à tel ou tel montage. Le principe de l'impôt minimum consiste à dire, à la fin des fins, si vous avez plus de 100 millions d'euros de patrimoine, qui est la population concernée par ce dispositif, on parle d'environ 1800 foyers fiscaux. Si vous avez plus de 100 millions d'euros de patrimoine, vous devez payer un minimum d'impôt sur le revenu. C'est simple, c'est aussi simple que ça.
C'est aussi simple que ça, et c'est l'actualité que vous avez choisie, Christian Chavagneux, qui aurait marqué cette année selon vous.
Ben oui, on est confronté à un problème budgétaire énorme. Là, on a une proposition qui répond à un problème extrêmement grave en France, qui est que notre fiscalité est inconstitutionnelle. Parce que la Constitution française dit qu'il y a une égalité devant l'impôt. Or, tous les économistes s'accordent à dire qu'il y a une note fabuleuse de l'Institut des politiques publiques qui montre que quand on est dans ces très, 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 très riches, on paye à peu près en impôt sur le revenu la moitié de ce que payent vous et moi. C'est-à-dire les gens qui, les salariés normaux, entre guillemets. Et donc, il n'y a pas du tout d'égalité devant l'impôt. Donc, il faut corriger cette inégalité devant l'impôt. C'est pas du tout pour réduire les inégalités que dénonçait ou que dénonce Thomas Piketty, puisque Gabriel Zucman a fait le calcul. En gros, entre 95 et aujourd'hui, c'est très, très, très riche. Ils ont un patrimoine. Leur rendement du patrimoine, c'est autour de 7%. Vous leur prenez 2%, c'est-à-dire que leur patrimoine va croître de 5%. Nos salaires à nous, ils croissent pas généralement de 5% en moyenne annuelle sur 30 ans. Donc, ça va pas réduire les inégalités. Sauf que ça va permettre vraiment de corriger un état de fait qui est complètement inacceptable en France. Et en plus, les calculs qui ont été faits nous disent que ça peut rapporter entre 15 et 25 milliards, mettons 20 milliards en moyenne. 20 milliards, le gouvernement cherche 40 milliards pour l'année prochaine et sûrement 30 milliards sur les années d'après. 20 milliards, c'est beaucoup. Et des économistes ultra-gauchistes bien connus comme Olivier Blanchard, comme Jean Pisani-Ferry, et je vous invite à lire Alternative économique aujourd'hui, Patrick Artus, disent que c'est absolument une taxe qu'il faut mettre en œuvre.
Cela dit, Christian Chavagneux, il y a certes les noms que vous venez de citer, mais la mesure a quand même provoqué un certain débat, notamment sur les choix méthodologiques de Gabriel Zucman, de choisir certaines cohortes de données plutôt que d'autres. Il y a notamment son affirmation selon laquelle la moitié des revenus, on va dire de la plupart des gens, passaient justement sous forme d'impôts, quand ce n'est pas du tout le cas des très 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 riches qu'on vient d'évoquer. Tout cela a provoqué un certain débat. Il y a une tribune dans Le Monde, notamment de Jean Perrelevade.
Oui, moi, c'est
est-ce qu'il faut s'en réjouir? Mais est-ce qu'il faut s'en réjouir sur le côté finalement, le débat est vivant aussi.
Perlevade a été un très grand économiste, un très grand banquier. Maintenant, il fait surtout de l'idéologie dans Les Échos. Donc, moi, je vais, pardon d'aller aussi vite sur la critique. J'ai assisté à deux jours de rencontres universitaires à Paris School of Economics autour de ce sujet-là. Des économistes qui venaient de 10 pays différents. Tous concluent à la même chose. Les plus riches payent moins d'impôts. Et surtout, contrairement à ce que dit le gouvernement, lorsque on on augmente un tout petit peu, comme le fait la taxe Zucman, la taxation très riche, ils ne s'en vont pas. Il n'y a pas un exil fiscal massif. Il y en a qui partent, mais c'est à chaque fois 0,2, 0,3, 0,4% des très riches.
Guillaume Allègre, vous souhaitez réagir?
Oui, alors le diagnostic n'est vraiment pas controversé. Là, Jean-Pierre Levade va chercher des choses un petit peu en bas de l'échelle de revenus, alors qu'on réfléchit au haut de l'échelle de revenus. Pour le bas, je suis d'accord qu'il faut faire les calculs un petit peu différemment, mais là, c'est vraiment une taxe qui concerne les 0,1%, 0,01% d'ailleurs. Donc, c'est pas controversé ni que ces patrimoines ont explosé, ni que finalement sur le revenu économique, ces patrimoines. Ces personnes, ces foyers, payent moins d'impôts en pourcentage que un peu en dessous. En tout cas, le premier décile, les 10% les plus riches, les 20%, le 0,1% paye un peu moins parce qu'ils ont des... Mais aussi parce que c'est ce que la loi fait, en fait. Hein. Ils ont des revenus du patrimoine qui sont moins taxés que les revenus du travail. Et ils ont des revenus qui sont pas du tout taxés parce que, en fait, des revenus économiques, parce qu'ils sont mis dans des structures qui ne sont pas imposées. Donc, l'idée d'aller imposer ces personnes-là est une bonne idée, il me semble.
En tout état de cause, le Sénat a rejeté par 188 voix contre 129 cette proposition de loi visant à instaurer la taxe dite Zucman. Mélanie Plouvier, vous souhaitiez réagir à ce qu'on était en train de dire, et puis je voudrais rappeler aussi qu'un peu dans le même état d'esprit, le 5 juin, une proposition de loi qui avait pour but de durcir les conditions du pacte Dutreil, qui est un dispositif qui allège la fiscalité sur la transmission des entreprises familiales et qui est donc considéré par une partie de la classe politique comme une niche fiscale en soi, a été retirée avant le vote final. On a l'impression qu'il y a une forme de crispation d'un côté assez politique, au-delà même du consensus économique scientifique, dès lors que l'on parle de patrimoine et de transmission.
Oui, et ce qui est très intéressant, hein, c'est de voir qu'il ne s'agit pas ici, on n'est pas en train de parler d'évasion fiscale. On parle de dispositifs prévus par la loi qui permettent de baisser son niveau d'imposition, que ce soit d'ailleurs du côté des revenus ou du côté du patrimoine, et qui, par là même, hein, introduit une distorsion légalement organisée entre les taux affichés et les taux pratiqués. Et par exemple, en matière de transmission patrimoniale, il y a, de ce point de vue, nombre d'exonérations, d'exemptions qui littéralement mitent la fiscalité successorale et qui permet aux plus grosses transmissions d'être faiblement taxé. Ce qui est très intéressant, c'est que effectivement, je suis d'accord avec ce qui a été dit, ce n'est pas qu'une question de redistribution. C'est aussi une question de philosophie politique et de définition de la citoyenneté. Et de ce point de vue-là, il n'est pas inutile de revenir au débat de la Constituante en 1790, au moment où se constituait le comité d'imposition qui était en charge de remettre en place une fiscalité. La fiscalité était, pendant la Révolution française, fortement associée à l'Ancien Régime, et les députés de la Constituante avaient comme enjeu de parvenir à construire une fiscalité républicaine. Et une de leurs exigences centrales pour construire cette fiscalité républicaine, c'était que la fiscalité soit universelle. Qui que vous soyez, riche ou pauvre, de l'aristocratie ou roturier, quels que soient les biens que vous transmettez, il y avait pour eux l'exigence que tous payent contribuent, et cette contribution était perçue comme un acte de citoyenneté.
On le voit, en tout cas, ce qu'on comprend à travers ce que vous nous dites, Mélanie Plouvier, c'est que l'activité économique en soi ne peut pas être dissociée de ce qui se passe dans la société. C'est une dimension qu'un sociologue avait bien compris. Ce sociologue, c'est Émile Durkheim, et qu'évoquait un autre sociologue, Philippe Steiner, dans Entendez-vous l'écho, le 6 mars dernier.
Il faut avoir conscience, je crois, du fait que au moment où Durkheim écrit, les économistes ont tendance à vouloir mettre leur savoir à l'écart d'autres sciences sociales. Et donc, du coup, à l'écart de l'histoire, pour certains d'entre eux, ou de la vie sociale tout court. Et Durkheim dit non, c'est pas possible. Et il a d'ailleurs, dans la période du début de son œuvre, une phrase où il dit « L'activité économique se passe dans la société ». Ça complique les choses, il en est conscient. Mais on peut pas faire sans ça. Alors, on peut avoir évidemment des tas d'exemples. Par exemple, la vie familiale. La vie familiale est extraordinairement liée à la question économique. Sur un sujet d'ailleurs sur lequel Durkheim a des positions très radicales, l'héritage. on accumule la richesse, mais c'est aussi pour transmettre. Et donc là, il y a une dimension familiale qui est très importante. On peut voir aussi apparaître ce genre de phénomène en liaison aux politiques. Et pour Durkheim, on peut pas ne pas mentionner la dimension religieuse de la vie et la position particulière que la religion va avoir vis-à-vis de l'économie.
Mélanie Plouvier, vous avez choisi de conseiller la lecture des leçons de sociologie d'Émile Durkheim. Qu'est-ce qui a présidé à ce choix ?
Alors, les leçons de sociologie, c'est une œuvre, c'est un ensemble de cours que Durkheim a prononcé entre 1890 et 1900. C'est un texte beaucoup moins connu que ces textes classiques que sont devenus La division du travail social, Le suicide ou Les formes élémentaires de la vie religieuse. Mais c'est un livre assez passionnant dans lequel Durkheim fait une histoire conjointe, une histoire parallèle de l'évolution des formes familiales et de l'évolution du droit de propriété sur le temps long, sur le temps cette fois-ci très très long. On remonte bien en amont de la Révolution française, puisque Durkheim parle, le point de départ de Durkheim, ce sont les sociétés claniques, puis les sociétés de l'Antiquité grecque et romaine. Donc on est vraiment sur une histoire comme on les aimait au 19e siècle, sur un temps extrêmement long. Si je devais retenir deux éléments de ce vaste parcours, c'est d'abord que de cette histoire, de ces histoires parallèles, ressort combien finalement l'acteur même de l'économie est bien moins l'individu que la famille. Pour le dire en un mot, familia economica plutôt que homo economicus, puisque on voit combien dans les formes anciennes de l'économie, c'était la famille qui agissait économiquement c'est la famille qui possédait en commun. L'inaliénabilité des biens par la même provenait du fait que les biens étaient les choses de la famille. Et ce que nous dit Durkheim, et c'est la seconde conclusion que je trouve particulièrement intéressante ou même perturbante, ce que nous dit Durkheim, c'est que finalement l'héritage, la transmission familiale du patrimoine constitue une forme d'archaïsme. En régime de la propriété privée, il perdure quelque chose de l'ancien communisme familial, de cette famille qui possédait les choses en commun, c'est l'héritage. Et ce que propose Durkheim à la fin de ses leçons de sociologie, c'est de substituer au communisme familial que constitue l'héritage et qui devient particulièrement inadapté étant donné les formes restreintes que prend la famille aujourd'hui, il propose de substituer une autre forme de commun, un commun professionnel. Il propose en d'autres termes de transférer l'héritage familial au groupement professionnel réorganisé.
Et on imagine que cette proposition n'a pas forcément trouvé preneur, en tout cas n'a pas abouti très, très concrètement. Comment est-elle perçue à l'époque où
alors, effectivement,
la formule
et... Effectivement. Alors, il faut savoir quand même que Durkheim n'était pas le seul à faire cette proposition au XIXe siècle. Aujourd'hui, nous avons complètement désarticulé héritage et organisation du travail. Au XIXe siècle, c'était si je vous dis quel est le lien entre héritage et syndicat, vous allez me dire, il n'y en a pas. Au XIXe siècle, cette articulation, elle était pensée. Et Durkheim n'est pas le seul à l'avoir pensée. Pour autant, sa proposition n'a pas débouché sur une mise en place effective et même je dirais elle a été très très longtemps totalement oubliée. Il y a une vingtaine d'années, les textes de Durkheim sur l'héritage, les textes de Durkheim sur le transfert de l'héritage familial au groupement professionnel, personne n'en parlait et on voit là les effets d'oubli de certains textes au cours de histoire.
Alors nous poursuivons la construction de cette bibliothèque économique dans quelques instants. Restez avec nous sur France Culture, ce sera juste après le Summertime d'Angélique Kidjo. Hey. Réunion au sommet aujourd'hui dans Entendez-vous l'écho, puisque Mélanie Plouvier, Christian Chavagneux, Antonin Bergeot et Guillaume Allègre nous transmettent aujourd'hui leurs conseils de lecture. L'occasion aussi pour nous de revenir et de décrire l'économie dans toute sa diversité. C'est ce que faisait le philosophe et économiste Ulysse Lojkine à notre antenne le 7 mai dernier.
Je dirais que la plupart des concepts qu'on emploie pour décrire l'économie ont des connotations politiques différentes. Ça demande du recul. Un de mes buts dans ce livre, ça a été de défendre ce concept en tant que concept rigoureux. Il y a plusieurs emplois aussi d'un même terme ou d'un même concept qui sont liés entre eux, mais pas, qui se superposent pas exactement. Et moi, j'essaye de défendre ce concept d'exploitation du travail comme concept rigoureux et donc en particulier mesurable. Des penseurs comme Rothbard ou, en fait, la plus connue est sans doute une écrivaine, Ayn Rand, on parlait d'exploitation en identifiant l'exploitation à la coercition, donc par l'État en particulier. Et donc, pour eux, la forme par excellence de l'exploitation dans les sociétés contemporaines, c'est l'impôt. Et donc, finalement, c'est l'exploitation de la minorité des entrepreneurs fortunés par la majorité qui est représentée dans cette bureaucratie qui met en œuvre ce matraquage fiscal contre les entrepreneurs valeureux, ce que Ayn Rand décrit avec beaucoup de style dans son roman La Grève. Donc, il y a plusieurs concepts pensable de l'exploitation. L'exploitation, ça peut être, voilà, on peut restreindre l'exploitation à cette idée d'appropriation par l'État, ou on peut en avoir un concept plus étendu. Les néoclassiques, justement, ont leur propre concept qui est lié à ce pouvoir de monopsone, qui est lié à des imperfections dans la concurrence. Et c'est vrai que dans mon livre, je me place au contraire dans le sillage de ce qui est la version la plus connue quand même du concept d'exploitation, qui est celle de Marx, qui s'intéresse en particulier à l'exploitation de la grande masse des travailleurs par les capitalistes.
Ulysse Lojkine qui nous donne à travers le temps des conseils de lecture, lui aussi, et qui était venu nous parler de la notion d'exploitation telle qu'il l'a saisie dans son ouvrage « Le fil invisible du capital, déchiffrer les mécanismes de l'exploitation » paru à la Découverte. Guillaume Allègre, cet ouvrage fait partie aussi de votre liste de recommandations. Pour quelle raison ?
Oui, parce que en fait, jusqu'ici, on a parlé du capital comme un moyen de transmettre les inégalités ou comme un chiffre, un nombre sur un compte en banque qu'il faudrait taxer. Mais le capital, c'est aussi un rapport de production, c'est aussi quelque chose, le capital. Capitalisme, c'est un mode de production d'abord. Hein, donc Ulysse Lojkine adopte une approche marxiste, hein, il s'en cache pas, et il définit le capital comme ça, comme pouvoir, comme mode de production qui permet. Et il dit que substantiellement, le capital permet l'exploitation. En fait, il peut pas y avoir de capitalisme sans exploitation. Alors ça se discute, mais en tout cas, c'est une façon de voir qui est un petit peu intéressante, et parce que c'est pas exactement la façon dont on parle du capital lorsque l'on en parle comme dans Le Capital au XXIe siècle, par exemple. Et donc, c'est intéressant de revenir à Marx. Et donc, ce que fait Lojkine, c'est ça. Il redéfinit l'exploitation, hein, comme le fait que... Alors, il y a plusieurs définitions et puis il répond aux objections. Alors, c'est un ouvrage de philosophie. Hein, c'est un petit peu...
Public averti, peut-être.
C'est un petit peu lourd, mais vous pouvez le prendre dans votre sac à dos. Hein, si vous allez au Vietnam, par exemple, cet été, vous allez voir... vous allez comprendre pourquoi ça vous coûte finalement moins cher de prendre 3 semaines de vacances là-bas que d'aller sur la côte atlantique. Et donc, pourquoi ça vous coûte moins cher? Parce que dans votre pouvoir d'achat, et ben vous allez acheter beaucoup plus d'heures de pouvoir d'achat aux personnes qui travaillent pour vous, en fait. Et donc, vous allez travailler moins d'heures que les personnes qui travaillent pour vous travaillent. Et vous allez travailler moins d'heures pour les autres personnes. Et donc, du coup, il définit l'exploitation comme ça. Et aussi, alors, mais pourquoi le capitalisme, alors, si c'est de l'exploitation? Parce que, donc, il admet que le capitalisme permet de la coordination. Donc c'est un moyen formidable de coordination. Et donc à la fin du livre, après, il réfléchit à des modes de coordination qui ne seraient pas les modes capitalistes.
Alors, on a beaucoup parlé d'histoire longue tout au long de cette émission. On peut y revenir une dernière fois et en parler avec grâce à deux ouvrages. Le premier, c'est le vôtre, Antonin Bergeau, c'est l'histoire économique de la France, telle que l'économiste Charles Serfati la raconte, la dresse aussi. N'hésite pas à remonter à la chute de l'Empire romain jusqu'à nos jours, quasiment en passant par le Moyen-Âge, la Renaissance. Le poids aussi des innovations tout au long de cette histoire très longue. C'est un ouvrage imposant, hein, de 528 pages, très exactement. Pourquoi a-t-il suscité votre intérêt, Antonin Bergeau ?
Oui, alors effectivement, c'est un ouvrage un peu volumineux, donc peut-être qu'il ne rentre pas dans tous les sacs à dos, mais je trouve que il se lit assez bien. Alors, le contenu n'est pas très surprenant, hein, c'est l'histoire économique de la France, donc c'est un livre d'histoire qui essaye de mettre quand même, et c'est ça vraiment l'originalité et qui fait que je trouve ce livre très intéressant, c'est qu'il essaye de mettre des chiffres autant que possible. Et il part pas avec des idées reçues. Par exemple, quand il traite le Moyen-Âge, il essaye autant que possible de mesurer. Tout à l'heure, on a dit qu'effectivement, on avait connu une phase de croissance très molle pendant longtemps. Mais en fait, si on regarde sur certaines périodes au Moyen-Âge, il y a en fait une expansion assez nette. Et on peut, alors on n'a évidemment pas de chiffre de comptabilité nationale à l'époque pour regarder en détail ce qui se passe, mais on voit les constructions, les cathédrales, le système monétaire qui se met en place. Enfin, il y a tout un tas d'innovations qui apparaissent au Moyen-Âge. Et justement, dans ce livre, il réhabilite un petit peu, grâce au travail d'historien quantitatif, ce type de fait. L'autre élément qui est assez précisément raconté et que j'ai trouvé intéressant, c'est justement toute l'histoire de l'agriculture française, en tout cas l'histoire moderne de l'agriculture française, où on a, tout à l'heure on a parlé des statistiques très riches sur l'héritage, on a aussi en France une culture de la statistique agricole qui est d'une richesse infinie et qui est collectée depuis très longtemps par les différents ministères. Et donc on a, on connaît très très bien la manière dont l'agriculture s'est mécanisée en France, un peu tard, sous quelles conditions, comment, le fait qu'il y a eu finalement assez peu de surplus agricole en France, parce qu'on avait un pays qui était quand même très peuplé, et dont la croissance était essentiellement tirée par la démographie. Donc, voilà, il y a énormément de choses dans le livre, évidemment, on peut le regarder chapitre par chapitre, je n'ai pas de le lire d'un coup, mais je trouve que c'est une histoire économique de la France qui est vraiment très rafraîchissante.
Christian Chavagneux, dès lors que l'on parle d'histoire longue, il y a les figures très connues, les figures aussi de l'ombre. Les deux derniers ouvrages que vous nous avez proposés sur les deux plans, on va dire. Et on peut rappeler aussi que 2025, c'est l'année des 75 ans de la déclaration Schuman, et c'est justement à une grande figure que vous vous êtes intéressé, avec celle notamment de Jean Monnet, et ce d'autant plus qu'il représente un véritable mystère en soi. C'est le titre de l'ouvrage de Gérard Bossuat, paru en février de cette année, Le mystère Jean Monnet. Alors pourquoi ce choix ?
Oui, chez Talendier, parce qu'on connaît Jean Monnet comme le père de l'Europe, celui qui a construit l'Europe, et on ne sait pas trop ce qu'il a fait avant de sa vie. Alors si, on sait que son père était entrepreneur en cognac et qu'il a bossé pour l'entreprise familiale. Mais qu'est-ce qu'il a fait entre je dirais, le début du XXe siècle et puis la figure mythique du père de l'Europe ? Et ben, c'est ce que nous donne cette biographie. J'avoue qu'elle est un peu longue, un peu trop détaillée, mais quand même très intéressante, parce qu'elle nous dit, bon, déjà, pendant la Première Guerre mondiale, on s'aperçoit qu'il a été le secrétaire d'Étienne Clémentel, gros, le ministre de la guerre avec Albert Thomas. Hein. Donc, il a beaucoup travaillé pour le public. Et puis, dès que la Première Guerre mondiale termine, il bascule complètement. C'est un grand financier international. Alors, délit d'initié, utilisation des paradis fiscaux, il est le meilleur ami d'Ivar Kreuger. Ivar Kreuger, c'est le plus grand escroc financier de l'entre-deux-guerres. Ils sont tous les deux copains comme cochons. Il invite au Ritz, il invite que les jolies filles, il claque son argent. Enfin, la caricature du banquier richissime. Et dès qu'arrive la Seconde Guerre mondiale, il bascule complètement, il est très proche de Roosevelt et il va se remettre au service du service public, il va inciter Roosevelt à financer l'effort de guerre en Europe. Bref, un personnage, Gérard Bossuat nous dit, c'est un personnage intrigant dans les deux sens du terme. J'ai trouvé que c'était une belle définition de Jean Monnet.
En espérant que vous trouviez une biographie à votre goût, entre celle consacrée à Roosevelt qui était trop peu détaillée et puis celle de Jean Monnet qui l'était trop. Voilà, on va essayer de trouver un juste équilibre. Christian Chavagneux, peut-être un dernier mot rapidement sur le dernier ouvrage que vous nous avez proposé, Mafia et pouvoir de Jacques de Saint-Victor, paru en 2013 mais qui reparaît désormais en poche folio. Là, c'est une histoire peut-être un peu plus sombre, un peu moins connue, mais qui raconte quand même un grand pan de l'histoire économique et financière.
Alors, elle n'est pas du tout sombre, elle est très excitante, au contraire. C'est effectivement un livre de 2012, mais qui a complètement disparu. Donc, bravo à Folio Histoire de nous l'avoir republié. Il n'y a pas beaucoup d'ouvrages sérieux sur l'économie politique de mafia. Celui-ci en est un. On comprend que les mafias, ça n'est pas du tout dans la pauvreté, mais que ça n'est chez les gros propriétaires riches qui veulent s'accaparer encore plus de terres. Et c'est comme ça que va naître la mafia en Sicile. On comprend que moins il y a d'État-providence, plus ça ouvre les portes aux mafias. Et il y a un chapitre absolument fabuleux sur les financiers de la mafia, notamment ce personnage grandiose qui est Michele Sindona, qui est celui qui est devenu, en 1957, réunion mythique de la mafia, le banquier de la Cosa Nostra et de l'Italie, et aussi parce que Giovanni Montini était un de ses meilleurs amis, qui devient complètement par hasard quelques années après, Paul VI, et donc il devient le banquier du pape en même temps qu'il est le banquier de la mafia. C'est quand même un personnage assez fabuleux.
Il faut bien le dire. Alors nous n'avons pas eu le temps de l'évoquer, mais il y avait de la fiction quand même qui a été proposée dans vos propositions respectives. Guillaume Allègre, vous avez mentionné un titre d'Alain Damasio, La vallée du silicium, et puis Mélanie Plouvier, vous vouliez honorer de Balzac, notamment avec Ursule Mirouette, mais ce sera peut-être pour une prochaine fois. En tout cas, je renvoie les auditeurs, les auditrices à ces titres, et toutes les références seront bien évidemment mises sur la page d'Entendez-vous l'écho. Cette semaine étant la dernière de la 8e saison d'Entendez-vous l'écho, quelques annonces s'imposent dès aujourd'hui car la fin de la semaine sera marquée par un mouvement de grève contre le projet de réforme de l'audiovisuel public, un projet qui fragilise les budgets alloués mais aussi les emplois déjà largement précaires via la création de filiales. Tout ce qui ne se sait pas s'ignore et donc n'existe pas. Ces mots du Clavroche de Musset ont une résonance toute particulière dans le contexte actuel car justement ce que permet la radio, ignorer moins et donc faire exister les réalités qui nous entourent pour mieux les comprendre. Mais comme le disait Paul Deharme, que je citais en introduction, la radiodiffusion a d'innombrables amis. Merci à vous, auditrices, auditeurs, d'en avoir fait partie cette année. Et merci à tous nos invités, chercheuses et chercheurs de talent qui ont accepté de transmettre leur savoir tout au long de l'année. Le programme de la grille de rentrée, c'est-à-dire celle qui commencera le 25 août prochain, a par ailleurs été dévoilé hier. L'occasion pour moi de vous donner rendez-vous l'année prochaine, donc sous un nouveau format, puisqu'Entendez-vous l'écho passe à un rythme hebdomadaire. Nous nous retrouverons donc tous les lundis, toujours de 14h à 15h, et vous retrouverez mes camarades Aurélie Luneau, Louise Touré et Sylvain Bourmeau tous les autres jours de la semaine, également à 14h. Est donc venu pour moi le moment de remercier toute l'équipe d'Entendez-vous l'écho, à commencer par l'incroyable Anouk Milliot, son talent, sa curiosité, son regard toujours pertinent sur l'actualité économique, mais pas que, la porteront loin de la même façon qu'elle a porté cette émission, qui n'aurait pas été la même sans elle. Et un immense merci à Paul Weinarter, notre stagiaire, qui a su tirer le meilleur des portraits que nous avons consacrés tous les jeudis aux grands penseurs de l'économie. Merci également à Tina Young pour son indéfectible enthousiasme et sa grande rigueur, et à Diane Devancet, véritable pilier d'Entendez-vous l'écho de bien des manières et à bien des égards. Et enfin à Bruno Barada, le producteur adjoint de cette émission, qui a tenté l'aventure cette année en plongeant avec brio dans le monde parfois obscur, il faut le dire, des économiste. Une émission n'est bien sûr rien sans le son. Entendez-vous l'écho ne serait donc rien sans Françoise Lefloc, qui tous les jours l'a réalisé avec soin, en finesse, en coupant, recoupant, arrangeant tous les extraits sonores qui font la richesse et la singularité de cette émission, et qui tous les jours accompagne aussi le direct derrière la vitre. Et ce fut également le cas cette année de Cassandre Puel et Noé Mignard, qui ont parfois pris le relais, et je les en remercie infiniment. Merci aussi, un énorme merci à Anne-Toscane Judès pour son soutien de la première et de toutes les heures. Et merci enfin à toutes les techniciennes et tous les techniciens. Ludovic Auger qui a assuré aujourd'hui, mais aussi Dalia, Marie-Claire Oumabadi, Grégory Vallon, Anthony Thomasson, Jean-Guilain Mège, Timothée Hubert, François Saint-Jour et tous les autres. Ce sont eux avant tout qui font la radio. Et on se retrouve bien sûr l'année prochaine à 14h.